13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, le récit des envoyés spéciaux de France Inter à Boutcha, Ukraine. Les images de ces corps dans les rues, possibles crimes de guerre ou génocide, disent les Européens. Moscou rejette les accusations. Nous devons avancer vers des sanctions sur le pétrole et le charbon russe, dit Emmanuel Macron. Nous irons à Bruxelles. Il faut prendre le temps de vérifier les faits, dit Amnesty. Les conséquences économiques de la guerre aussi, dans ce journal. Reportage sur l'immense site propriété de Renault en Russie, 35 000 salariés. L'usine s'arrête ce matin, manque de pièces. En France, le carburant à 2 euros, les transporteurs souffrent, comme celui-ci qui vient de faire entrer 36 000 litres dans ses cuves.
Un complet gasoil me coûtait 45 000 euros. Et là, aujourd'hui, on est à 85, 86 000 euros.
Un transporteur à l'heure du carburant cher, ce sera notre feuilleton à 13h50. La campagne électorale à 6 jours du premier tour. Intention d'abstention 30% selon un sondage Ipsos pour France Inter. Allez-vous voter ou pas dimanche? Et pourquoi? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Pour vos questions, nous serons avec Brice Teinturier d'Ipsos. Les échos de la campagne d'Emmanuel Macron, de Yannick Jadot, d'Éric Zemmour et de Philippe Poutou dans ce journal. Et en Corse, la réunion entre gouvernement et lui est reporté à cause des violences hier à Ajaccio. Dans l'actualité encore, la météo, record de froid pour un mois d'avril. Quels dégâts dans les champs, nous ferons le point. Une nouvelle numéro 1 mondiale pour le tennis, la polonaise Iga Świątek. Dans le vif de l'histoire, comment parler à un dictateur? Et dans C'est une chanson, la comédienne Catherine Jacob nous fait écouter les Rita Mitsouko. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
C'est une petite ville de 37 000 habitants avant la guerre, à 40 km de Kiev. Elle est au centre de l'Europe depuis ce week-end. Que s'est-il passé à Boutcha, Ukraine? Après le retrait russe, les envoyés spéciaux des médias internationaux peuvent entrer dans la ville. Et ce qu'ils voient est insoutenable. Des cadavres dans les rues, certains ont les mains liées dans le dos. C'est à Boutcha que nous allons retrouver une des équipes d'envoyés spéciaux de France Inter, Thibault Lefebvre, Benjamin Thuot et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Boutcha ce matin, Thibault.
Les réseaux se sont soudainement arrêtés. Plus d'internet, de téléphonie et de satellite. L'objectif, évidemment, c'était d'éviter d'être la cible d'un missile russe. Volodymyr Zelensky, dans sa tenue vert kaki, qui a marché au milieu des tanks calcinés, des débris d'obus encore disséminés sur le tarmac, et qui a rencontré des habitants traumatisés dans la ville, qui est devenue le symbole de cette guerre et des atrocités russes. Le président ukrainien a parlé de crimes de guerre, de preuves des exactions russes, de l'importance de témoigner des horreurs filmées, photographiées et documentées depuis samedi. Un discours combatif. Et si l'interview est assez attendue, l'image. Et on sait à quel point Volodymyr Zelensky est aussi et surtout un homme d'image d'un président debout dans la ville martyre de Boutcha est saisissante. Car si Kiev n'a pas cédé, que Zelensky est toujours le président de l'Ukraine, c'est sans aucun doute parce que les habitants de Boutcha et des autres villes autour, Hostomel, Irpin, se sont sacrifiés pour sauver le pays.
Et en Europe et en Ukraine en particulier, Thibault, on craint d'autres Boutcha.
Le village de Motijnia, avec dans la forêt de pins, en lisière des habitations, un trou dans la terre meuble et quatre corps ensablés. Les cadavres de la mère de Motijnia, Olga Sourenko, qui avait été enlevée par les soldats russes le 23 mars, de son mari Igor, de son fils Alexandre et d'une quatrième victime encore non identifiée. Olga Sourenko a le crâne fracassé. Son gendre nous a raconté qu'elle a été torturée à mort avec un marteau parce qu'elle n'a pas voulu collaborer avec l'occupant. Là où la question d'autres Boutcha se pose, c'est parce que les environs de Motijnia n'ont pas encore été déminés, n'ont pas encore été fouillés et les autorités s'attendent à découvrir d'autres corps.
Thibault Lefebvre, Benjamin Thuot, récit qui nous est parvenu vraiment il y a quelques minutes depuis Boutcha en Ukraine. Ces massacres sanglants commis par des Russes méritent d'être appelés par leur nom génocide, déclare le Premier ministre polonais. Il appelle à la création d'une commission d'enquête internationale. Cas présumé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide, dit aussi le Premier ministre espagnol. Il plaide pour un renvoi devant la Cour pénale internationale. Le Kremlin rejette catégoriquement toutes les accusations. Moscou parle de provocation haineuse, de mise en scène ukrainienne à propos de ces cadavres dans les rues. Et la Russie lance une enquête de son côté et demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour Bruno.
Que sait-on de ce qui s'est passé à Boutcha? Élément de réponse avec vous Virginie.
Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que cette ville de Boutcha, 37 000 habitants avant la guerre, est située dans une zone stratégique à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev. Cette zone comprend également les villes de Vorzhin, Arzel, Hostomel avec son aéroport et Irpin, verrou sur la route de Kiev. Toutes ces villes qui se touchent étaient sur la route des blindés russes venus de Biélorussie toute proche, direction la capitale ukrainienne. Elles ont été prises très vite, dès le 27 février pour Boutcha, soit seulement au troisième jour de guerre, avant de rencontrer les semaines suivantes une résistance à laquelle elle ne s'attendait pas. Et c'est précisément là que la situation est devenue très compliquée pour les civils. Ce matin, un conseiller du président Zelensky, Alexis Arestovitch, parle de scènes apocalyptiques dignes de films d'horreur.
C'est juste apocalyptique. Ils ont torturé notre peuple, ils ont battu des enfants, des personnes âgées, des femmes, des hommes. Certains ont eu les mains attachées dans le dos, d'autres sont morts d'une balle dans la tête.
Pour pouvoir commencer à investiguer sur de possibles crimes de guerre, ce conseiller a donné une liste très précise sur ces troupes russes qui pourraient être à l'origine de ces exactions. C'est extrêmement détaillé, Bruno. Il cite par exemple la 63e brigade de la Rosgvardia, les forces spéciales de la police, la 14e brigade des forces spéciales russes et deux commandos parachutistes basés dans les villes de Pskov et de Ryazan, soit toutes, Bruno, des unités d'élite.
Nous avons énormément d'informations, d'images, de vidéos, de témoignages, littéralement en direct, dit la présidente d'Amnesty International en France. Mais elle appelle en même temps toutes les personnes rivées sur ce qui se passe en Ukraine à faire attention. Nous allons prendre le temps, dit Amnesty, pour pouvoir nous aussi vérifier cette information. Il est important de pouvoir croiser les informations, être certain qu'elles sont toutes absolument indéniables. Le président de la République, Emmanuel Macron, était ce matin l'invité de France Inter. Et voici ce qu'il dit au micro de Nicolas Demorand et Léa Salamé à propos de Boutcha.
Il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre. C'est l'armée russe qui était à Boutcha. La justice internationale doit passer.
Pour la première fois, la ministre allemande de la Défense estime qu'il faut débattre de l'interdiction d'importer du gaz russe en Europe. Va-t-on et doit-on le faire maintenant également ?
Nous allons nous coordonner avec nos partenaires européens, en particulier avec l'Allemagne, mais nous allons prendre des mesures individuelles supplémentaires. Et moi, je suis favorable à ce qu'on ait un train de sanctions.
Ça pourrait être décidé dans les prochains jours, qu'on arrête dans les prochains jours d'importer totalement du pétrole russe ?
Je pense que sur le charbon et le pétrole, il faut qu'on puisse avancer. Je pense que nous devons, en effet, avancer sur les sanctions.
Ce sera fait cette semaine ?
Les tout prochains jours doivent donner lieu à une concertation européenne, c'est en tout cas mon souhait. C'est notre dignité collective et ce sont nos valeurs qu'on nous devons défendre.
Et l'Union européenne discute en urgence de nouvelles sanctions contre Moscou, précisé dans la matinée le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Correspondante de France Inter en direct de Bruxelles, va-t-on vers un cinquième train de sanctions, voire un embargo sur pétrole et charbon russe, Angélique ?
Alors un cinquième train de sanctions, oui assurément, un travail intense est en cours entre les 27 selon un diplomate européen avec une adoption espérée mercredi ou jeudi, mais un embargo sur les hydrocarbures, sur le charbon et le pétrole comme l'évoque le président Macron qui serait une étape avant de couper les approvisionnements éventuellement en gaz, eh bien ce n'est pas mûr hein, selon une source européenne et la clé reste à Berlin. Certes la ministre allemande de la Défense a fait une ouverture, appelé à un débat, mais le chancelier Olaf Scholz, quoique très choqué lui aussi par les atrocités récentes, ne l'a pas reprise à son compte. L'économie allemande, très dépendante des hydrocarbures russes, pourrait ne pas s'en relever, dit-on officiellement. Alors à quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, la discrétion reste de mise. Ici, ne rien révéler des négociations en cours, c'est s'assurer de pouvoir afficher un front uni lors de l'annonce de ces nouvelles sanctions. Le président Macron a d'ailleurs insisté ce matin sur cette nécessaire coordination. Tout est sur la table, dit-on, mais d'éventuelles mesures aussi fortes qu'un embargo se prendront au niveau des dirigeants. Le massacre de Boutcha sera-t-il un électrochoc, hein, comme la photo, rappelez-vous, du petit Elan gisant sur une plage turque en 2012 ? Réponse dans les tout prochains jours.
Angélique Bouin, en direct de Bruxelles pour France Inter. Un embargo sur le gaz et le pétrole russe, c'est le seul moyen de forcer Vladimir Poutine à mettre fin à ses atrocités, estime le candidat à la présidentielle Yannick Jadot. Pour tous ceux qui avaient fait preuve de complaisance à l'égard de la Russie, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Marine Le Pen, ce sujet reste embarrassant. Éric Zemmour se veut sans ambiguïté ce matin, crime affreux et infâme, et si c'est avéré, évidemment, crime de guerre, dit-il à propos de Boutcha. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
Quant à Marine Le Pen, est-ce qu'elle trouve sa voix sur ce sujet ?
Alors sur Boutcha, comme Éric Zemmour, Marine Le Pen condamne ce qui s'est passé. Il s'agit là d'un crime de guerre, a-t-elle dit ce matin sur BFM, appelant l'ONU à enquêter de toute urgence. En revanche, sur la Russie, sur Vladimir Poutine, les ambiguïtés demeurent. Il y a déjà la présence, toujours, parmi les porte-paroles officielles du russophile Thierry Mariani, qui le 19 mars évoquait une opération d'intoxication de l'Ukraine concernant le bombardement sur le théâtre de Mariupol. Alors certes, l'eurodéputé se fait discret, totalement absent des médias. Certes, Marine Le Pen a pris ses distances, mais rien de plus contre l'ancien ministre. Prudence aussi de la candidate sur l'avenir, interrogée jeudi dernier sur France 2. Elle n'a pas exclu que Vladimir Poutine redevienne un allié si la guerre en Ukraine prenait fin. Principe de réalité, justifie-t-elle, brandissant la menace du fondamentalisme islamiste. Volonté aussi certainement de ménager le Kremlin, avec qui la candidate a entretenu des liens pendant 10 ans.
Des cadavres à Boutcha et dans le sud de l'Ukraine, de nouveaux bombardements. Otchakiv, Mykolaïv, le bilan de sources ukrainiennes est de 8 morts et 34 blessés. Selon la Banque européenne pour le développement, l'économie russe va gravement souffrir des effets de cette guerre et des sanctions internationales. L'organisme anticipe un écroulement de 10% de la richesse nationale en Russie cette année. Reportage dans une ville qui est à la Russie ce que Détroit est aux États-Unis. Grande cité d'automobile, Tolyatti, sur les bords de la Volga, 1000 km au sud-est de Moscou. Il y a 700 000 habitants. Et là se trouve une très grande usine, Avotovaz, dont le français Renault est actionnaire majoritaire. Il y a 35 000 salariés sur le site. Beaucoup sont inquiets depuis que Renault a annoncé vouloir réévaluer sa présence en Russie. Reportage du correspondant de France Inter, Sylvain Tronchet.
À partir de ce matin, l'usine Avtovaz va s'arrêter. La production manque de composants à cause des sanctions. Zulfia, une magasinière, s'inquiète.
Nous sommes les victimes de cette situation. Avec quoi nous allons vivre? Est-ce que nous allons garder notre emploi ou non? En tout cas, il va falloir que je cherche du travail en plus pour avril et pour mai. Parce que sinon, je n'ai pas assez pour vivre.
À Tolyatti, la vie est dure. Les salaires sont faibles, aux alentours de 35 000 roubles par mois, à peine 350 euros. Léonid Demchanov est le président du syndicat indépendant d'Avtovaz.
Les gens étaient méfiants au début quand la direction française est arrivée. La première chose qu'ils ont promise, c'est qu'il y aura des licenciements, mais que ceux qui resteront seront augmentés. Seulement, il n'y a pas eu d'augmentation réelle, juste quelques copecs.
Renault a malgré tout redressé Avtovaz. L'entreprise a renoué avec les bénéfices, mais la guerre en Ukraine remet de nouveau tout en cause, regrette Anna, ouvrière depuis 32 ans chez Avtovaz.
Bien sûr, tout le monde se sent mal aujourd'hui. Les événements qui se déroulent en Ukraine ne plaisent à personne. Nous ne voulons pas mettre les Français dehors, même s'ils ne nous traitent pas toujours très bien.
À Tolyatti, on a du mal à comprendre le sens des sanctions contre la Russie. C'est comme si on nous punissait, dit un ouvrier. Tolyatti, Sylvain Tronchet, France Inter.
Voilà pour ce reportage sur le site Avtovaz. En tout cas, il est un dirigeant européen que Vladimir Poutine félicite aujourd'hui. C'est le Hongrois Viktor Orban. Quatrième victoire d'affilée aux législatives pour le leader populiste. Avec le président serbe réélu, lui aussi ce week-end, cela fait 2 points d'appui au cœur de l'Europe pour Poutine. Lendemain de vote en Hongrie, Orban, 12 ans et encore. Reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Louise Baudet.
Il y a bien sûr un peu de Russie poutinienne dans la Hongrie de Viktor Orban. Personnification du pouvoir, médias aux ordres, oligarchie dévouée, promesse de stabilité. La relation personnelle entre les deux hommes complète le tableau sur fond de forte dépendance hongroise au gaz et au pétrole russe, acheté à prix d'amis. Proximité qui horrifie ceux qui ont voté hier contre Viktor Orban, à l'image de Noémie, une étudiante de Budapest.
Aussi longtemps qu'Orban va rester au pouvoir, rien ne va changer. Poutine va demeurer le meilleur ami de mon pays. C'est extrêmement triste.
Les Russes dehors, slogan d'un autre temps qui réapparaît à l'occasion de la guerre en Ukraine. Mais l'autre partie de la population, celle qui a massivement reconduit Viktor Orban hier, ne partage pas cette détestation du puissant voisin de l'Est, Eva, une fidèle électrice du Fidesz.
Je suis grand-mère, je veux la paix. Et c'est pour ça que je vote pour lui, parce qu'il ne veut pas intervenir dans cette guerre.
Viktor Orban a réussi la prouesse de transformer un handicap en atout politique, c'est l'une des clés de sa victoire d'hier. Mais ses ambiguïtés l'isolent en Europe. Même l'ami polonais, autre champion de l'illibéralisme, prend ses distances. Et la Serbie d'Aleksandar Vučić, l'autre ami de Poutine, réélu hier, ne fait pas partie de l'Union européenne. Budapest, Louise Baudet, France Inter.
L'actualité internationale, c'est aussi sur franceinter.fr. Vous trouverez notamment le témoignage d'Artem, réfugié de Boutcha, au micro d'un de nos envoyés spéciaux, Thibaut Lefebvre, sur franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
Bruno Duvic.
La campagne à 6 jours du premier tour de la présidentielle. Elle se combattra dimanche. Des records d'abstention, intention d'abstention, 30% selon l'Institut Ipsos pour France Inter. Si c'est bel et bien le chiffre de dimanche, le record de 2002 qui était de 28% serait battu. Est-ce que vous allez vous abstenir dimanche prochain et pourquoi? Appelez-nous 01 45 24 7000 ou intervenez sur l'appli France Inter à la rubrique Réagir dans un quart d'heure. Brice Teinturier, directeur général d'Ipsos, sera avec nous. Vous pourrez dialoguer avec lui et lui poser vos questions. Dans cette campagne assez atone, comment mesurer que l'échéance approche? Eh bien, en allant voir ceux qui mettent sous pli les bulletins et documents de propagande électorale que vous recevrez cette semaine dans vos boîtes aux lettres. Après les ratés des départementales et régionales l'année dernière, plus de sous-traitants, la Poste récupère le monopole de cette importante activité. La mise sous pli à Châteauroux, c'est la mairie et non la préfecture qui supervise. Reportage Marie Dorcet, France Bleu Berry.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne chôme pas. En musique, les 44 employés sont répartis sur 6 grandes tables. Tous debout, ils sont bien organisés.
C'est à la chaîne.
Il faut d'abord regrouper toutes les professions de foi.
Hop, les 12, on les rassemble et on les met en tas ici.
Même chose avec les bulletins, avant de tout glisser dans une enveloppe déjà adressée. À chaque table, la machine est bien rodée.
Vous mettez combien de temps pour faire un carton à peu près?
9 minutes 40 à peu près, je ne sais plus combien d'enveloppes. Une quarantaine, ouais, voilà.
En un week-end, les volontaires ont rempli près de 30 000 enveloppes et c'est quand même assez physique. Sandrine y participe pour la troisième fois.
En fait, c'est des gestes répétitifs. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a un peu des courbatures partout, quoi. Le dos, les épaules.
Les employés sont payés en plus pour venir, mais il n'y a pas que ça qui la motive à faire cette mise sous pli.
Il y a quand même une bonne ambiance. C'est des relations différentes du travail, en fait. Et puis on côtoie d'autres collègues qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est sympa.
Avec 12 candidats, l'organisation a été longue. Il a fallu réceptionner beaucoup de colis. C'est Patrick Dupont, le responsable de l'accueil informatique, qui s'en est chargé.
Le travail est contrôlé ce matin à 8h30 par la commission de contrôle de la préfecture qui va prendre des échantillons dans chaque chariot et qui va vérifier que les 12 circulaires et 12 bulletins de vote soient bien dans chaque enveloppe.
Puis toutes les enveloppes seront envoyées par la poste pour arriver chez les électeurs dans quelques jours.
Et les 12 candidats se battent pour mobiliser encore et toujours. Ce week-end a été marqué par une série de grands meetings. Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, Emmanuel Macron à Nanterre. Valérie Pécresse, porte de Versailles à Paris. Elle appelle à renverser la table dans les jours qui restent. Éric Zemmour lui répond ce matin.
Je veux lancer un appel solennel aux électeurs de droite, les électeurs de LR. Madame Pécresse a déjà préparé son ralliement à Emmanuel Macron à 20h02. C'est déjà dans les tuyaux, tout le monde le sait, à LR. Ce que je dis aux électeurs de LR, c'est ne vous laissez pas voler votre élection. Je suis le candidat de la droite. Et je dis une dernière chose. Avec moi, il y aura une véritable recomposition politique. C'est-à-dire que si Marine Le Pen est au second tour, rien ne bougera. Aucun LR n'appellera à voter pour elle. En revanche, si je suis au second tour, Éric Ciotti, François-Xavier Bellamy et bien d'autres, éventuellement Madame Morano, etc., appelleront à voter pour moi. Bellamy et Ciotti l'ont dit publiquement. Il y aura donc une recomposition politique et on pourra enfin se débarrasser du cordon sanitaire qui sépare artificiellement les électorats du Front National et de la droite LR. Nous ferons la réconciliation de ces électorats. Seul mon vote permet cela.
Éric Zemmour sur France Info ce matin avec Marc Fauvel et Sally Abrakia. La campagne se déroulera à la télévision, en particulier cette semaine. Les 12 candidats invités de France 2 demain soir, pas de débat, ils se succéderont et ils passent deux par deux sur TF1 au fil des jours. Et sur France Inter, évidemment, parmi les sujets de cette fin de campagne, la Corse, de nouvelles violences à Ajaccio hier, 150 à 200 personnes face à la police. La position de l'équipe Jadot dans un instant. Ces violences sont inacceptables, dit Emmanuel Macron sur France Inter, invité du 7-9 ce matin. Il semble temporiser sur une forme d'autonomie, discuté avec les élus corses.
Pour moi, l'autonomie n'est pas un objectif en soi. Moi, je pense que la République est importante pour la Corse et la Corse est importante pour la République. Et que ce à quoi il faut qu'on œuvre, c'est un, le retour au calme. Deux, que les missions soient bien accomplies sur des compétences qui étaient celles de la collectivité. Nous avons pris nos responsabilités. Parfois, nous l'avons fait sur les déchets, sur l'énergie.
Et après les violences de ce week-end, la réunion qui devait se tenir entre les élus locaux et le gouvernement est reportée. C'est ce que dit l'entourage de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, à nos confrères de l'agence France Presse. La position des Verts sur ce sujet, Mélanie Vogel, la sénatrice, eh bien, elle dit que les Verts, derrière Yannick Jadot, n'ont pas changé de position, contrairement à Emmanuel Macron.
Ce qu'a proposé Emmanuel Macron, je n'ai pas bien compris, et je pense que les Corses non plus, puisque lui-même dit que ça reste à définir. Ça fait longtemps que les Corses demandent de façon pacifique, modérée, un dialogue autour de la question de l'autonomie, que ce dialogue n'a pas pu avoir lieu, qu'il y a après un drame que le dialogue reprend dans des conditions malheureusement extrêmement tendues. Mais voilà, les écologistes ont toujours été en faveur d'une autonomie de plein droit. Ça veut dire des choses très simples. Hein. Les Corses souhaitent pouvoir avoir un mix énergétique 100% renouvelable, ils souhaitent pouvoir avoir un CHU, avoir une connexion maritime avec Barcelone. Enfin voilà, ce sont des choses qui sont tout à fait entendables et raisonnables.
Un propos recueilli par Antoine Gignot. Propos de campagne en Corse de Philippe Poutou, nouveau parti anticapitaliste. On ne sera pas à l'Élysée, reconnaît-il, mais il faut discuter de la nécessité de s'organiser, de reconstruire le mouvement social. Le système capitaliste est incapable de subvenir aux besoins des populations et nous enfonce toujours plus dans la crise. Il plaide pour l'expropriation des entreprises. L'économie doit être aux mains de la collectivité, estime Philippe Poutou. Et à 6 jours du premier tour, la chaîne parlementaire diffuse ce soir un documentaire intitulé « Le grand remplacement, histoire d'une idée mortifère ». Ce thème a traversé la campagne à l'extrême droite et un peu à droite. Que signifie cette expression? D'où vient-elle? Qu'implique-t-elle? Eh bien, le documentaire de Nova Productions donne des réponses, Alexandra Hakoun.
Le grand remplacement. Pour bien comprendre l'idéologie complotiste et xénophobe que véhiculent ces deux mots, les deux auteurs du documentaire, l'historien spécialiste de l'extrême droite Nicolas Lebourg et le journaliste Thomas Riby, en traquent d'abord les origines, de l'époque coloniale jusqu'au sulfureux écrivain Renaud Camus qui invente la formule en 2010 et s'en explique ici face caméra.
Je suppose qu'elle m'est venue par assimilation avec d'autres formules, la grande peste, la grande guerre, la grande dépression. J'assume totalement le terme de colonisation et même de dire que l'Europe est aujourd'hui beaucoup plus colonisée qu'elle n'a jamais colonisé elle-même.
Un fantasme qui ne repose sur aucune donnée scientifique, rappellent les différents intervenants, historiens, politistes, démographes, mais qui va s'imposer sur les réseaux sociaux via la fachosphère, traverser les océans, bousculer l'Amérique. Et nous revenir en formule choc dans la bouche des candidats de droite et d'extrême droite auxquels médias et instituts de sondage vont emboîter le pas.
C'est parfaitement conforme à l'économie médiatique actuelle qui repose sur une logique du buzz, du clash. Ça produit des effets d'accréditation. Ça rend le phénomène d'autant plus réel.
Et parce que des mots, certains sont passés à l'action, le film rappelle salutairement les tueries perpétrées ces dernières années par des suprémacistes au nom du grand remplacement. Utoya en 2011, Christchurch en 2019. La menace d'un nouveau passage à l'acte reste une réalité.
Le grand remplacement, histoire d'une idée mortifère, c'est sur la chaîne parlementaire ce soir à 20h35 et ce sera suivi d'un débat. Pessah, les rameaux, le ramadan, beaucoup de fêtes religieuses dans les jours à venir. La consigne du ministre de l'Intérieur au préfet maintient d'une forte vigilance vis-à-vis des lieux à caractère religieux. Le ministre rappelle que la menace terroriste est toujours élevée. Il a fait -9,3 degrés cette nuit à Mourmelon dans la Marne. On a battu des records de froid depuis 1947, nous dit Météo France. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Et on redoutait les conséquences pour les arboriculteurs en particulier. Qu'en est-il quelques heures après cette nuit glaciale?
Alors vous voyez bien, même si vous vivez en ville, que les arbres explosent de fleurs en ce moment et à cause notamment de la douceur de février et de mars. Faut pas l'oublier. Imaginez donc les arbres fruitiers, certains avec des petits fruits déjà dans le sud-ouest, dans l'ouest de la France. Alors c'est difficile d'être exhaustif sur les dégâts ce midi, c'est trop tôt. Mais en Lot-et-Garonne, gros producteur de fruits d'été, eh bien le coup est rude, manifestement, pour par exemple Thierry Moll des vergers de Roussel à Fontgrave.
Le problème, samedi soir, le vent s'est arrêté à 20h. Et là, les températures, elles ont chuté. À 9h du soir, on n'avait plus que 3 déjà. Et on est passé à négatif à 23h.
Donc ça fait donc pas loin de 8 heures de gel derrière, qui succède à un premier épisode il y a 2 semaines déjà. Il sait que la récolte d'abricots, de pêche, de nectarines est très compromise.
On a lutté sur des poires, mais bon, on est apparemment 100% gelé. Et pommes, on a des inflorescences qui sont toujours fermées, qui n'ont pas fleuri, mais qui sont complètement noires déjà à l'intérieur.
Noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Température négative nettement également au centre Val-de-Loire ces 3 dernières nuits. Au verger de pommes d'Anjou, les antigels ont été activés. Mais est-ce que les parcelles ont été totalement protégées? C'est la question évidemment qu'Arnaud de Puy-Neuf, le président de la coopérative, se pose.
Là, cet après-midi, une fois qu'on aura
arrêter, éteint tous les moyens de protection contre le gel. On va aller constater dans les parcelles, voir l'étendue des dégâts, parce que je ne pense pas qu'on sorte indemne de cet épisode de gel.
Arnaud de Puy-Neuf avec Aurélien Tirard. Même travail d'évaluation en cours en Loire-et-Cher, où les bougies et les bottes de paille ont brûlé dans les parcelles de pommiers et de poiriers, près de Chambord notamment, mais pas chez Luc Saillard, au verger du Bel Air, à la vallée de Ronsard, parce que l'exploitation était épargnée jusque-là, et que les dispositifs coûtent cher.
Bon, maintenant, il y a des nouvelles choses qui arrivent sur le marché pour lutter contre le gel, du matériel qu'on peut atteler derrière un tracteur et qui crée du brouillard et de la vapeur d'eau. Peut-être que si ça continue là, oui, dans les années qui viennent, on va être obligé d'investir dans ce genre de matériel-là.
Deux années de gel printanier consécutif pourraient donc pousser des arboriculteurs à s'équiper, d'autant que jusqu'au Sainte-Glace, les 11, 12, 13 mai, les agriculteurs, les viticulteurs, les arboriculteurs, les maraîchers peuvent trembler, hélas.
Et dans quelques petites minutes, la météo d'Élodie Calac de Météo France. Avant cela, le tennis, une nouvelle numéro 1 mondiale pour le tennis. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques jours, Ashleigh Barty, numéro 1 mondial, l'Australien, annonçait à la surprise générale sa retraite à 25 ans. Alors la place était libre mécaniquement aujourd'hui. Celle qui était numéro 2 devient première. C'est la Polonaise Iga Świątek qui a été vainqueur coup sur coup en deux semaines du tournoi d'Indian Wells et ce week-end de celui de Miami. Fabrice Abgral.
Il y a moins de deux ans, mis à part quelques initiés, personne ne connaissait Iga Świątek. Elle est sortie de l'anonymat quand le 10 octobre 2020, en pleine pandémie, la native de Varsovie a remporté Roland-Garros et ceci sans perdre le moindre set, devenant à 19 ans la première Polonaise à s'adjuger un tournoi du Grand Chelem. À l'époque, elle était 54e mondiale. 18 mois après, la voilà numéro 1 et là encore, première Polonaise à monter sur le trône du tennis féminin. La dauphine devient reine, un statut qui lui est tombé dessus alors qu'elle ne s'y attendait pas, mais qu'elle va devoir maintenant assumer.
Ces derniers jours ont été très stressants pour moi à cause de tout ça, mais maintenant, je suis vraiment satisfaite et fière de moi. Et j'ai vraiment l'impression que mon tennis est sur la bonne voie. L'objectif est donc de rester à cette place et de poursuivre ce que je sais faire.
Iga Świątek est la 28e joueuse à occuper la place de numéro 1 mondial depuis la création du classement WTA en 1975. Depuis 2002, depuis 20 ans, 18 joueuses différentes sont montées sur le trône, dont une française, la seule, Amélie Mauresmo, c'était en 2004.
Et donc après tant d'exploits, la Polonaise est fatiguée, elle déclare forfait pour le tournoi de Charleston chez les garçons. La vedette du moment, c'est l'Espagnol Carlos Alcaraz qui remporte le tournoi de Miami et qui gagne 5 places au classement ATP. Il est désormais numéro 11. C'est toujours Djokovic qui est numéro 1. Encore un mot pour vous parler d'un rendez-vous qui nous tient à cœur ce soir sur France Inter. À partir de 20h, soirée spéciale hommage à Gisèle Halimi qui nous a quittés en juillet dernier. Vous pouvez d'ores et déjà via franceinter.fr écouter une série d'émissions consacrée à l'avocate et militante féministe. Elle s'était notamment confiée avant sa disparition à la journaliste Annick Cojan qui était ce matin l'invitée d'Augustin Trapenard dans Boomerang. Gisèle Halimi disait que rien n'est jamais acquis dans le féminisme. Il faut continuer à se battre. Approbation d'Annick Cojan.
Elle a tellement raison. À chaque fois que j'écoute une archive de Gisèle, la flamboyance, la lucidité, la percussion avec laquelle elle parle est toujours magique, est toujours tellement réelle, est toujours nous interpelle et nous oblige là en l'occurrence à faire attention, à ne rien considérer comme acquis, à être sur le qui-vive, à être vigilant et à être solidaire. Nous les femmes en tout cas, j'espère les garçons aussi avec nous, mais en tout cas nous les femmes parce qu'effectivement, tout peut toujours être mis en cause, on le voit de façon sur le plan économique. Les femmes sont toujours les premières victimes de chômage. Dès qu'il y a une moindre crise économique, ce sont elles qu'on renvoie à la maison. Et puis les autres droits, on le voit de par le monde, on le voit dans les pays de l'Est, on le voit en Afghanistan, vous l'avez dit.
La journaliste Annick Cojan ce matin avec Augustin Trapenard et la soirée hommage à Gisèle Halimi, c'est à partir de 20h ce soir sur France Inter, soirée animée par Sonia De Villers. La météo dans un instant.
L'original ou la copie? Organon Originals, 22 médicaments originaux pour pas un centime de plus.
Rendez-vous sur organonoriginals.fr ou chez votre médecin.
Médicaments Organon Originals, l'idéal.
Vous agissez en faveur de la biodiversité et pour une consommation responsable. Vous êtes une association, une ONG, un organisme à but non lucratif. Bénéficiez d'une campagne publicitaire gratuite sur les antennes de Radio France en répondant à notre appel à candidature. Vous avez jusqu'au 8 avril pour déposer votre dossier et être l'un des 8 projets retenus. Radio France s'engage pour une publicité plus verte sur ses antennes avec l'opération Transition en commun. Toutes les informations sur radiofrancepub.com.
À table,
Ah, c'est l'heure de mes médicaments. Tu peux me les attraper, ils sont dans le sac de la pharmacie.
Mais papy, tu prends plus tes médicaments Mylan ?
Non ma chérie, maintenant ça s'appelle Viatrice.
Viatrice ? Et qu'est-ce que ça change pour toi ?
Ça change rien, à part le nom.
Mylan devient Viatrice. À part le nom sur les boîtes, vos médicaments restent les mêmes pour ne rien changer à vos habitudes. Viatrice, permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie.
Le temps de ce jour.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Avec plus de 400 centres et 800 ateliers mobiles, Euromaster est partout au service de votre sécurité.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Après la nuit glaciale, ça se réchauffe quand même. Hein.
Oui, alors les gelées, elles ont vraiment épargné seulement Paris, les côtes de la Manche, la côte méditerranéenne également. C'est la nuit d'avril la plus froide en 75 ans de données. Cet après-midi, ça se réchauffe bien par rapport à ce matin, mais ça reste quand même bas pour la saison. 9 degrés à Metz, à Aurillac, 10 à Lille, à Paris, 11 à Brest, Colmar, Lyon, 12 à Agen, 16 à Marseille. Demain, on va se rapprocher des moyennes de saison sur les régions du Nord. Au Sud, encore des gelées, parfois fortes, notamment vers le Massif central. Ça ira beaucoup mieux mercredi partout. Côté ciel, aujourd'hui, on a un ciel ensoleillé sur la moitié sud jusqu'au sud de la Vendée, au Berry, à la Franche-Comté. Un peu plus de nuages vers la région PACA et la Corse avec une averse possible. Et puis plus au nord, là, les nuages gagnent du terrain. On a une perturbation qui donne de la pluie de la Bretagne au nord de la Seine. Les premières gouttes arriveront en région parisienne en fin d'après-midi et ce temps faiblement perturbé gagnera la moitié nord cette nuit.
Élodie Calac, Météo France, il est 13h30.
France Inter, le 13-14. Bruno Duc.
Le record d'abstention du 21 avril, premier tour de la présidentielle 2002, qui avait vu la qualification de Jean-Marie Le Pen au second tour, ce record d'abstention sera-t-il battu dimanche ? Il y a 20 ans, 28,4% des personnes inscrites sur les listes électorales ne s'étaient pas déplacées. Aujourd'hui, 30% des personnes interrogées par Ipsos Soprasteria pour France Inter envisagent de s'abstenir, entre 28 et 32%. Le sondage a été réalisé vendredi et samedi dernier auprès d'un échantillon de 2000 personnes. Envie d'abstention plus marquée chez les femmes que chez les hommes, chez les ouvriers que chez les cadres ou les retraités, et chez les 25-34 ans en premier lieu, à gauche plus qu'à droite, et plus encore très nettement chez ceux qui ne se reconnaissent dans aucun parti. Question sur l'abstention jusqu'à 13h45 avec notre invité. Bonjour Brice Teinturier.
Bonjour.
Directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos, auteur lors de la précédente campagne de Plus rien à faire, plus rien à foutre, la vraie crise de la démocratie. J'invite les auditeurs à dialoguer avec vous. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour toutes vos questions. Entre 28 et 32% d'intention d'abstention. Moi, ce qui m'a frappé en regardant les chiffres, c'est que la corrélation avec le revenu est très nette.
Oui, tout à fait. Et ce qui est très frappant, vous avez très bien résumé les principaux indicateurs, ce qui est très frappant, c'est que cette abstention, elle progresse à peu près partout.
Oui.
Dans toutes les catégories de la population, quand on la compare à ce qu'a été l'abstention de 2017, on voit que, y compris chez les revenus les plus élevés, on a quand même des hausses qui peuvent atteindre 9 points, mais c'est très fort et encore plus fort, évidemment, chez les revenus les moins élevés. Donc on a des logiques sociales qu'on retrouve. Les cadres s'abstiennent moins que les ouvriers, les revenus élevés moins que les revenus les plus faibles ou les plus précaires. Mais le plus frappant, encore une fois, c'est plutôt que cette abstention, elle monte partout. Y compris chez les cadres, y compris chez les revenus élevés. Alors on sera peut-être pas aux 30% d'abstention, c'est la fourchette haute. Et là, il nous reste quand même une semaine. On peut se dire que ça peut tomber à 27-28%. La divine surprise, ça serait si on avait une abstention seulement de 25%, c'est-à-dire quand même supérieure à 2017. Il reste 6 jours pour que les Français se mobilisent un peu plus, mais il y a malgré tout des tendances lourdes qui font que, très clairement, ils se mettent en relative distance vis-à-vis de cette élection.
Vous insistez sur les 6 jours. En 2017, il y avait eu un regain de mobilisation dans les derniers jours.
Oui, c'est pour ça qu'on est prudent, parce que en 2017, on a vraiment eu une hausse de la participation sur les 4-5 derniers jours. Malgré tout, quand on compare stricto sensu à 2017, on devrait déjà avoir une hausse de la participation plus forte. Mais les mécaniques ne sont pas forcément parfaitement reproductibles. Donc peut-être qu'on aura un mouvement plus marqué dans les tout derniers jours ou pas. Je vois mal comment on pourrait retrouver le niveau d'abstention de 2017 qui était de 22%. Je suis à peu près convaincu qu'on sera au-dessus. La véritable interrogation, c'est est-ce que c'est au-dessus de 2-3 points, ça c'est la divine surprise, ou est-ce qu'on est aux alentours du record, vous l'avez rappelé, du 21 avril 2002, donc de un peu plus de 28%.
Les 30%, pour prendre le chiffre moyen, d'intention d'abstention, ça recouvre quoi? Ce sont des gens qui vous disent « je ne suis sûr de ne pas aller voter » ou « j'hésite », comment avez-vous fait pour obtenir ce chiffre, si j'ose dire?
On part de plusieurs indicateurs, mais notamment d'une note de 0 à 10 d'intention d'aller voter, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux ou le moins mal, en tous les cas dans les élections passées. Et on sait qu'en prenant la note 10, on est aux alentours de l'abstention, qu'on peut être en surdéclaration, donc c'est notre point de repère.
Okay.
Après, on multiplie avec d'autres indicateurs, on regarde dans le passé, on regarde d'autres indicateurs, on pose des questions, par exemple, sur le regret qu'auraient les électeurs s'ils n'allaient pas voter en fonction des résultats. C'est un indicateur qui a bien fonctionné dans certains pays, au Canada, en Australie. Donc là, on travaille sur des émotions par rapport à ce que pourrait être une abstention. Et on essaye de combiner tout cela pour ne pas se faire piéger par une surdéclaration ou une sous-déclaration dont les Français ont le secret.
Pourquoi un tel niveau dans les intentions d'abstention ?
Alors là, pour le coup, les causes sont assez claires. En tous les cas, les Français nous en donnent de manière extrêmement claire. La première, c'est qu'ils estiment que les candidats font beaucoup de propositions qui n'ont pas grand-chose de nouveau. Il y a l'idée d'une espèce de ronron, de déjà entendu, déjà vu. Et moi, je dirais trop de propositions et pas assez de vision. Donc tout cela s'éparpille. Le deuxième élément, et il est très spécifique à cette élection, et c'est ça qui, personnellement, m'inquiète un peu sur ce qui pourrait se produire dans les tout derniers jours, c'est le pronostic. Les Français se disent que les jeux sont faits.
Oui.
Ils pronostiquent très massivement qu'Emmanuel Macron va être réélu. Et je vais te dire, c'est très mauvais. Quand les Français se disent cela, ça peut autoriser un peu tout et son contraire dans les derniers jours. Le 21 avril 2002, vous l'avez rappelé, moi je me souviens parfaitement que vous aviez des électeurs de gauche qui disaient « Jospin sera qualifié pour le second tour, on en est évidemment sûr, donc on va lui donner une petite leçon au premier tour ». Ils sont allés sur Besancenot, sur Taubira, etc. Donc on ne peut pas exclure qu'il y ait des mouvements à cause de ce pronostic de dernière minute. Et c'est la deuxième raison qui nourrit aussi l'abstention. S'il n'y a pas d'enjeu, si les jeux sont joués, eh bien on ne va pas voter. Et puis la troisième quand même, c'est les candidats. Et là, les Français le disent aussi, les candidats ne parlent pas assez, selon eux, des sujets qui les préoccupent. Ce qui préoccupe les Français, c'est le pouvoir d'achat, là. Pourtant, les candidats, objectivement, je crois, en parlent pas mal. Et puis, ils nous disent également, quasiment dans la même proportion, et ça, je pense que c'est un vrai sujet pour cette présidentielle, qu'ils ne sont pas à la hauteur. Et quand on regarde l'image des candidats auprès des Français, c'est quand même pas une image extraordinaire. C'est pas du tout 2007, où là, il y avait quelque chose autour des principaux candidats. C'est pas la mécanique non plus de 2012 pour ou contre Nicolas Sarkozy. Donc, autour des candidats, on manque d'allant, quand même.
Rien de neuf, le sentiment, à tort ou à raison, que les jeux sont faits, des candidats qui ne parlent pas assez des sujets qui les préoccupent, voire qui ne sont pas à la hauteur. Voilà les éléments de l'abstention. Et Godefroy au standard avec nous. Bonjour Godefroy.
Oui, bonjour.
Alors vous
moi, je voulais vous dire que de toute façon, je vais quand même aller voter.
Aller voter, oui.
Je ne sais pas qui voter parce que les programmes sont tellement confus qu'on ne sait même plus quoi voter. Je ne sais pas si je vais pas prendre tous les bulletins, mettre tout déchiré, tout mettre dans une enveloppe. Alors, voilà. Je veux dire, on ne sait pas pour qui réellement voter.
Merci pour ce témoignage. La liaison technique n'était pas très bonne, mais vous allez voter, mais vous ne savez pas encore pour qui, parce que les programmes ne sont pas clairs. Il y a beaucoup d'électeurs qui sont dans ce cas-là, Brice Teinturier.
Oui, c'est à la fois le sentiment qu'il y a beaucoup de propositions, et on a du mal à faire la part entre les propositions des uns et des autres. C'est aussi la conséquence de l'affaiblissement du clivage gauche-droite. Le clivage gauche-droite, il avait quand même pour mérite d'éclairer la scène électorale. Là, quand on est dans un paysage très explosé, très fragmenté, où cette espèce de forme d'organisation de l'espace électoral ne fonctionne plus ou beaucoup moins, eh bien les choses sont plus confuses. Et puis vous avez 12 candidats. Donc vous avez toutes les sensibilités possibles à gauche, à droite, à l'extrême droite. Et en réalité, ça introduit plus de confusion parfois que de clarté quand il y a trop de candidats.
Je faisais allusion dans la présentation à votre livre d'il y a 5 ans, Plus rien à faire, plus rien à foutre, la vraie crise de la démocratie. Dans quelle mesure cette abstention traduit-elle vraiment un détachement complet vis-à-vis de la politique ?
Je crois que ce n'est pas tout à fait comme en 2017, justement. Parce qu'en 2017, il y avait un vrai dégoût, un vrai rejet de la politique. Là, paradoxalement, la pandémie a redonné le sentiment aux Français qu'il était utile d'avoir des politiques qui prenaient des décisions pour les protéger. Donc on n'est pas exactement dans la configuration de 2017. Ce qui, en revanche, réunit ces deux élections, c'est beaucoup plus les jeunes. On n'en a pas encore parlé, mais les moins de 35 ans, là, il y a quelque chose quand même de continu, de structurel, qui fait que élection après élection, ils s'éloignent de la scène électorale traditionnelle.
Et les 25-35 plus que les 18-25?
Oui, mais dans les deux catégories, ouais. Parce que les 18-25, vous avez aussi les primo-votants, ceux qui vont voter pour la première fois, et c'est un peu un rite de passage, un rite de transition, une accession au statut de citoyen. Donc en général, on vote à ce moment-là, et puis on vote un peu moins quand on rentre dans la vie active. Mais globalement, les moins de 35 ans, c'est assez impressionnant. Les niveaux, on a pratiquement 40% de cette classe d'âge qui, a priori, pourrait ne pas aller voter.
Françoise, on n'évoque jamais aussi le fait que les dates soient pendant les vacances scolaires. Ça joue ?
C'est vrai, il y a 47% des Français qui sont dans la zone B. Et la zone B sera en vacances à partir du premier week-end électoral. Tous ne le savent pas. Ça peut avoir un petit effet parce que tous n'iront pas évidemment au week-end ou en vacances, loin de là. Mais la question des procurations, malgré tout à la marge, peut aussi jouer. Ils n'ont pas forcément réalisé que c'était ce week-end-là que le premier tour d'élection avait lieu.
Nicole, je suis en colère en constatant ce taux d'abstention ou d'intention d'abstention. Je suis choquée par les gens qui s'abstiennent. Je pense que c'est irresponsable. Raymond, sur le sujet, parce que vous avez aussi testé les pistes pour lutter contre l'abstention. Bonjour Raymond.
Oui, bonjour. Merci d'avoir retenu ma question.
Eh bien, je vous écoute.
Qui est toute simple. Voilà, on se désole des abstentions, à juste raison, mais ne serait-il pas motivant pour les électeurs, afin de se déplacer jusqu'aux urnes, de comptabiliser enfin les votes blancs ? Car c'est une vraie opinion qui doit s'exprimer.
Eh bien, voilà. Brice Teinturier, vous avez soumis la question à votre panel.
Oui, tout à fait. Et la reconnaissance du vote blanc serait quelque chose dont les Français pensent qu'elle pourrait conduire une partie des abstentionnistes plutôt à voter. Alors, moi, je crois que ça joue malgré tout un peu à la marge. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a de l'enjeu ou pas de l'enjeu. Oui. Mais de plus en plus, cette question du vote blanc, elle est importante parce que elle traduit bien aujourd'hui le trouble des électeurs et leur insatisfaction. Il y en a qui voudraient voter, aller voter, mais pour manifester justement une forme de mécontentement à l'égard de l'offre électorale. Et donc, la reconnaissance du vote blanc serait un des outils qui le leur permettrait.
Quels sont les candidats qui sont le plus menacés par l'abstention ?
Aujourd'hui, ils sont plutôt les candidats de gauche. Et Jean-Luc Mélenchon a un enjeu spécifique autour de la mobilisation parce que son électorat en 2017 était un électorat qu'il avait su mobiliser autour des jeunes notamment et puis des milieux populaires. Là, il a plus de mal, ce sont les jeunes et les milieux populaires qui s'abstiendraient le plus. Donc pour la gauche, c'est important. Pour Marine Le Pen, ça reste un sujet aussi, parce que son électorat sociologiquement est très populaire. C'est un peu ce qui lui a fait défaut au régional. Donc là, on surveille ça de très très près. Et c'est toujours la difficulté, est-ce que cet électorat ira véritablement voter. Mais c'est à gauche que l'effet, en tous les cas, est le plus négatif potentiellement.
On parlait des moins de 35 ans. Florent, au standard, bonjour Florent.
Bonjour.
Vous avez 28 ans, me dit-on, et vous n'irez pas voter?
Non, tout à fait. Malheureusement, ce n'est pas par envie, mais par contrainte, dans la mesure où je ne serai pas chez moi ce week-end et je ne connais personne sur ma région qui pourrait prendre ma procuration. Et ce que je reproche en fait au mode de scrutin actuel, c'est son manque de modernité et son manque de solutions, comme éventuellement le vote par anticipation. Je pense qu'on perd quelques points de participation à cause de ce genre de problème.
Brice Teinturier, alors effectivement, vous avez testé reconnaissance du vote blanc. Les personnes interrogées pensent que ça pourrait faire baisser l'abstention à 81%. Vote obligatoire, 65%. Et vote, alors, sur Internet, 65% aussi.
Oui, alors c'est ce que les Français pensent que ça permettrait de provoquer. Donc c'est pas forcément, évidemment, la réalité. Tout ça sont des conditions d'accès au vote. Faciliter l'accès au vote, ça ne peut que permettre un petit surcroît, on va dire, de mobilisation. Mais j'en reviens au-delà de l'accès, de faciliter l'accès aux enjeux réels. Ouais. Si l'élection apparaît comme sans enjeu, si les Français se disent à tort ou à raison, les jeux sont faits, vous pouvez multiplier les facilitations d'accès. Le central, le point fondamental, c'est quand même, est-ce qu'il est utile que j'aille voter ou pas ?
On arrive au terme de cet entretien. Au-delà de l'abstention, est-ce que les lignes sont figées, si j'ose dire, ou est-ce que les votes peuvent encore bouger beaucoup entre candidats ?
Alors il y a une clarification, je crois, qui est en train de s'opérer, notamment sur ceux qui vont être ou qui peuvent être qualifiés pour le second tour, mais il n'y a pas de cristallisation. On voit clairement qu'après l'effet Ukraine, le président sortant, Emmanuel Macron, est en train de revenir à une zone aux alentours, on va dire, de 26-26,5%, quelque chose comme ça, c'est-à-dire quand même son niveau ou un peu au-dessus d'avant l'Ukraine. On voit très clairement aussi que Marine Le Pen est dans la zone des 20% et devrait être qualifiée. Et il ne faut pas oublier, malgré tout, Jean-Luc Mélenchon, qui, lui, est aussi dans une zone 15-16%, donc quand même plus loin derrière, mais qu'il faut continuer à avoir à l'esprit. En tous les cas, il y a une clarification, a priori, sur les deux sélectionnés, mais il n'y a pas encore de cristallisation du vote. Et si vous me le permettez, parce qu'on n'a pas parlé de l'Ukraine, sur l'abstention et tout, l'Ukraine, dans un premier temps, a fait écran à la campagne. C'est comme si vous aviez deux images, et l'Ukraine s'est superposée devant l'image hexagonale. Là, les deux images ont tendance à se disjoindre. L'Ukraine est toujours importante dans l'esprit des Français, effet de sidération, de colère, désir qu'il y ait des sanctions plus fortes, mais il y a deux écrans un peu différents. Il y a l'Ukraine d'un côté, puis il y a le chaudron français qui revient, et donc l'Ukraine ne sera pas, à mon avis, quelque chose qui va favoriser l'abstention. C'est plus comme ça que ça se pose.
Merci Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos, et les détails de cette enquête, on les retrouve sur franceinter.fr. Bonne journée à vous.
Merci.
France Inter, le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Comment parler à un dictateur ?
Oui, Staline et Pasternak, c'était en 1934.
C'est dans 10 minutes. Avant cela, il y aura le feuilleton une semaine avec un transporteur en ces temps de carburant très cher. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
La comédienne Catherine Jacob est à votre micro aujourd'hui. Elle est à partir de demain sur la scène du théâtre Héberto Paris dans la reprise de la pièce de Georges Feydeau, Un fil à la patte.
Un des grands classiques du vaudeville, Un fil à la patte, ici transposé dans les années 1950. Pointe de jazz, touche de musical, mais l'intrigue reste évidemment la même. Les tourments amoureux et financiers d'un homme, Fernand de Boisdanguin.
Un vieux noceur, qui a encore de très très jolis restes, qui n'a plus du tout d'argent devant lui et qui trouve miraculeusement une petite héritière. Mais le problème, c'est qu'il a un fil à la patte, à savoir sa chérie, qui est une chanteuse de cabaret. Et le gars s'en met les pinceaux et ne sait plus comment s'en sortir. Et en plus, la belle-mère, à savoir la baronne du Verger, a la grande idée d'inviter la chanteuse pour une soirée de divertissement, comme ça, chez elle, le soir des fiançailles de sa fille, Viviane, avec le fameux Boisdanguin. Moi, je suis la baronne du Verger, c'est-à-dire que ça a l'air de rien, mais c'est moi qui ai le pognon. Et chez Feydeau, c'est toujours comme ça. Donc, la morale de l'histoire, c'est que le Boisdanguin, Fernand, il va quand même choisir le pognon plutôt que l'amour. Très, très moral.
L'argent domine le monde.
Ben, l'argent domine le monde. Et l'amour dure ce que ça peut.
Le jour se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut. Merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer.
On aura reconnu la voix de Catherine Ringer, Frédéric.
Qui chante Ding Dang Dong, l'un des titres du 7e et dernier album studio d'Erita Mitsuko. Titre sorti en 2007, quelques mois avant la mort de Fred Chichin. Et c'est notamment pour la poésie de son texte que Catherine Jacob l'a choisi.
Le jour se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuages d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer. L'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air encore frais, par la fenêtre ouverte triomphe l'été. Ah, c'est magnifique, hein ? Il y a une écriture et une sensualité féminine, si vous voulez. Ce n'est pas la grosse cavalerie. Dans la façon d'exprimer l'érotisme, ça peut être fait à fleur et moucheté.
Il y a de l'érotisme ici ?
Dans le studio. oui, c'est une chanson érotique quand même. Oui.
Mon amour, la valeur pour s'aimer. Le ciel est clair, l'air a...
chanson-là, c'est une chanson qui vous arrive de fredonner?
Ah bah de hurler comme un putois sur la voix de Catherine Ringer, donc je suis contente de mettre le son un peu plus fort pour pas m'entendre.
Très grande chanteuse, Catherine
Ringer. Très grande chanteuse, immense. Je la connais pas dans la vie, mais c'est quelqu'un qui ne sait pas à quel point elle fait du bien aux gens. Qu'elle l'entende ça, qu'elle le sache aussi. C'est des gens géniaux qui sont a priori des iconoclastes et qui... sont presque des dames de charité, quelque part, puisque elles ont un effet salvateur sur les gens, tout le temps. Et puis, si vous voulez avoir un petit gnat le matin, allez hop, un petit coup de Rita, et ça repart.
Ding dong dong, ringing at your bell, des Rita Mitsuko. C'était donc, Frédéric, le choix de Catherine Jacob.
Que l'on retrouve dès demain au Théâtre Héberto à Paris dans la pièce Un fil à la patte, mise en scène par Christophe Lidon. Elle joue donc la baronne, c'est elle qui a le pognon.
Eh ben le pognon, on en reparle tout de suite. 10 et sans plomb, à nouveau au-dessus des 2 euros le litre les jours derniers. Nous passons une semaine dans une entreprise de transport, dans le feuilleton Transport Coton. Entreprise familiale d'un peu moins de 50 salariés dans l'Ain, près de Bourg-en-Bresse. La PME se porterait bien si la hausse du prix des carburants ne venait manger le bénéfice. Vous allez l'entendre. C'est un feuilleton signé Sarah Guibaudot, premier épisode. 7h du matin, un parking de Villars-les-Dombes entre Bourg et Lyon. Et Sarah au pied du camion.
Je peux monter à côté de vous ?
Pas beaucoup.
Ok. Alors, je vais essayer de monter dans le camion avec l'enregistreur sans me casser la figure. Hop, ça y est, c'est un peu haut.
Je m'appelle Tony Lebon, je suis dans le transport depuis quasiment 15 ans. On fait du Rhône-Alpes, on part tous les matins généralement aux alentours de 7h. Moi je prends des bouteilles d'eau, je prends de quoi manger la journée.
À l'avant de votre camion, on voit que c'est un peu chez vous aussi.
C'est ça, ouais, c'est un peu chez moi. Je passe plus de temps dans mon camion que forcément dans mon appartement.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
C'est que ça change tous les jours. Bah, c'était une reconversion professionnelle il y a 15 ans. En fait, j'ai passé mes permis à l'époque pour en fait suivre la compagne avec qui j'étais. J'ai toujours travaillé, j'ai jamais été au chômage.
Vous pouvez me dire combien vous gagnez à peu près ?
Ouais, je suis entre 2000 et 2500 euros par mois. Moi, je gagne bien ma vie. Hein. Mais par contre, je fais beaucoup d'heures. Là, je vais sur Bourg-en-Bresse.
Bonne route.
Faites attention par contre quand vous descendez. La plupart des accidents, ils arrivent en descendant du camion.
Donc là, c'est l'entrepôt.
Donc là, il y a des produits pour le bâtiment. Vous avez là des habits de chantier pour un autre de nos clients. Jérôme Coton, 44 ans, gérant d'une société de transport. Donc on a une quarantaine de véhicules lourds, 48 salariés exactement. On travaille pour les grandes et moyennes surfaces. Et on travaille aussi pour des industriels où on livre leur production. La société, sous sa forme actuelle, a été montée par mon père. Moi, j'ai commencé à travailler avec lui il y a une dizaine d'années. J'étais commerçant avant, j'ai eu des bars, des restaurants. Et la vie a fait que j'ai fini dans le transport. C'était pas du tout prévu et j'en suis là aujourd'hui et j'en suis plutôt satisfait.
Là, il est 7h du matin. Vous avez combien de camions qui sont partis sur la route et comment vous les suivez ?
Donc j'ai 30-40 camions qui sont sur la route. On les piste pas toute la journée non plus. Hein. Quand un client nous demande par exemple où est sa marchandise, on a sur nos ordinateurs, et moi je l'ai installé sur mon téléphone, une carte GPS qui nous permet de situer nos véhicules. Je vois par exemple que j'ai un véhicule qui arrive sur Mâcon. Si je suis en mode dézoomé, je sais que j'ai 10 véhicules qui roulent actuellement autour de Lyon. Vous gérez beaucoup d'imprévus, donc c'est ce qui me plaît, c'est que vous savez pas comment va se passer votre journée. Alors ça va de la simple crevaison, accident de la route, des bouchons, donc il faut trouver des solutions de repli pour livrer les clients en heure. Ça va au conducteur qui ne se lève pas le matin, donc je saute dans un camion pour partir livrer un client. Ça me fait du bien, des fois ça me vide la tête.
Bonjour.
Il va nous manger le bénéfice, là il va faire le plein.
Un chauffeur qui arrive et qui va faire le plein, d'accord ?
Voilà, 600-700 litres de gasoil. Alors je vous laisse me calculer à 2 euros le litre. Ça pique, ouais, ça fait vraiment mal.
Alors, qu'est-ce qu'on a là ?
Donc là, on est devant la station gasoil et le distributeur d'Adeblue.
Distributeur de ?
D'Adeblue. Donc c'est quelque chose que l'on met en plus du gasoil dans nos véhicules. C'est pour dépolluer ce qui ressort du pot d'échappement. tous les 9-10 jours, on fait entrer 36 000 litres de gasoil. Un complet gasoil me coûtait 45 000 euros. Et là, aujourd'hui, on est à 85 000, 86 000 euros. Je vous ai parlé de la Desblous. Je le payais 28 centimes il y a quelques semaines. On le paye actuellement 1,10 euros le litre. Tout augmente en ce moment. Les véhicules que l'on achète ont augmenté de 12%. Les pneumatiques.
Est-ce que ça vous amène parfois à réduire votre activité, à refuser certains transports, certains trajets ?
La semaine dernière, on a arrêté de travailler avec un client qui n'a pas voulu de nos augmentations. Donc on a préféré arrêter la ligne plutôt que de continuer à travailler à perte pour ce client.
Le feuilleton en réalisation Théo Raison et demain avec Sarah Guibaudeau, nous irons dans le bureau d'exploitation où on essaye d'optimiser les tournées et faire accepter la hausse des prix par les clients. 13h54.
France Inter, le 13-14.
Après la découverte de ce qui a toutes les apparences de crimes de guerre à Boutcha en Ukraine, le régime russe est un peu plus en accusation. La Russie dément formellement toute exaction et accuse l'Ukraine de mise en scène. Mais qui parle au nom de la Russie à part Poutine? En fin de semaine dernière, le chef des renseignements britanniques affirmait que les subordonnés de Poutine n'osent plus lui décrire la réalité en Ukraine. Comment parler à un dictateur? C'est le vif de l'histoire aujourd'hui, Jean Lebrun. Le grand écrivain albanais Ismaël Kadare consacre un livre entier à une conversation entre Staline et un autre écrivain qui remonte à juin 34.
Oui, Kadare sait d'expérience qu'un dictateur, c'est radioactif. Celui de son pays, Enver Hoxha, avait ajouté au stalinisme le maoïsme. Et un jour, il a appelé Kadare au téléphone, pour le féliciter d'ailleurs. Et le jeune écrivain ne sut qu'enchaîner les « merci, merci ». Alors ici, il s'attarde sur une conversation au sommet entre Staline et Boris Pasternak, admirable aux yeux de Kadare, ne serait-ce que pour avoir reçu le prix Nobel de littérature qui lui a échappé, à lui Kadare.
Alors, dispute au sommet, titre l'ouvrage, mais la conversation n'a duré au maximum que le temps de votre chronique et au téléphone.
Oui, mais Kadare en a recensé 13 versions différentes fournies par les témoins ou par les historiens. Alors, d'un côté, il y a le Kremlin, forteresse intangible. Staline fait appeler par son secrétaire. Allô, camarade Pasternak, le camarade Staline veut vous parler. Alors, à l'autre bout du fil, Pasternak se tient dans son appartement communautaire, que se partagent plusieurs familles. Alors, est-il seul dans le couloir quand il décroche, ou entouré par les voisins, attiré par la sonnerie? Les versions varient sur ce point, comme sur l'attitude de Pasternak. Sa femme dira qu'il a gardé son sang-froid, et sa maîtresse qu'il est resté sidéré quand Staline, avec sa voix fruste, son accent géorgien, l'a d'emblée tutoyé.
Et l'objet du coup de téléphone, c'était un autre géant des lettres, Ossip Mandelstam.
Oui, camarade, attaque de suite Staline, tu sais que Mandelstam a été arrêté. Pasternak aurait préféré que le dictateur lui parle d'autre chose. Oui, Mandelstam avait fait circuler à l'automne 1933 une épigramme sur, je cite, « le montagnard du Kremlin » dont Frédéric Pommier va vous lire quelques amabilités.
Ces mots de plomb tombent de ses lèvres. Lui seul tempête et désigne comme des fers à cheval. Il a forgé des décrets.
Bon, Mandelstam a pu écrire des choses plus fortes, mais pas plus courageuses. Le dictateur a envoyé aussitôt sa police se saisir de la personne et des papiers du poète. Alors, Pasternak, au téléphone, aurait pu hasarder devant Staline. On n'arrête pas ainsi un grand écrivain, camarade Staline. Mais ce sont d'autres mots qui lui viennent. Oh, vous savez, camarade Staline, Mandelstam et moi, nous sommes poètes, mais nous appartenons à deux écoles distinctes. Nous sommes différents, camarades. Et aussitôt, Staline aurait mis fin à la conversation sur le mode de la raillerie, voire du mépris. Camarade Pasternak, quand nos amis bolcheviques étaient en difficulté, nous les défendions mieux.
Bon, peut-être s'est-il dit davantage de choses. En tout cas, Staline, ce mois de juin 1934, a consenti à atténuer la condamnation de Mandelstam.
En effet, Mandelstam sera seulement relégué et sa femme, Nadejda, sera autorisée à l'accompagner. Le sort de Pasternak sera autrement enviable. Pourquoi? Après le coup de fil, en tout cas, il va bénéficier d'un appartement plus grand, puis d'une datcha à Peredelkino, le village des écrivains les mieux dotés. Mandelstam, lui, éloigné à des milliers de kilomètres, sera d'ailleurs expédié peu après 1938 au goulag extrême de la Colima qu'il ne pourra pas rejoindre. Il mourra en route en décembre 38.
Alors, cela dit, les interprétations qui demeurent diverses de ce fameux entretien de 1934 témoignent qu'on veut croire à une marge de manœuvre que garderaient ses interlocuteurs face au dictateur.
Oui, parce que Staline n'attendait-il pas que Pasternak lui tende une perche avant de poser un geste faussement généreux ? Après tout, dans la tradition monarchique, le souverain avait pardonné à Pouchkine, et dans la tradition bolchevique, Lénine avait tout passé à Gorki. Pasternak, plus tard, interviendra pour Anna Akhmatova et son fils, et beaucoup plus tard, 1956, il va remettre courageusement à l'étranger le manuscrit du docteur Jivago, son histoire personnelle, des années 1905-1940. « C'est mon arrêt de mort », dira-t-il. Et en effet, le Nobel de littérature, survenant dans la foulée, Pasternak ne trouvera plus jamais la tranquillité. Une grande campagne sera déclenchée contre lui, à laquelle assistera le jeune Ismail Kadare, qui faisant alors ses études en Russie, en restera marqué à jamais. Khrouchtchev, numéro 1 soviétique de l'époque, applaudira les camarades zélés qui présenteront Pasternak, je cite, hein, « comme un porc ingrat qui ne chie pas où il a mangé ». Les dirigeants du Kremlin aiment bien buter leurs adversaires dans les chiottes.
Ismail Kadare dispute au sommet chez Fayard. Voilà une des bases de votre chronique Le Vif de l'Histoire de ce jour. Merci Jean Lebrun et bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
Quel est le problème de la terre au carré? La terre un peu trop sèche.
Oui, on fera le point sur la sécheresse en France dans un instant.
À tout de suite Mathieu.